Bon,
Donc,
oui.
oui, alors comment, qu'est-ce que c'est pour vous que le folklore?
Ah, c'est une chose très importante. Et je n'ai pas le temps, hein, mais je vous la donnerai si vous voulez. J'ai fait il y a aussi presque 30 ans maintenant, une certaine conférence qui s'appelait Folklore et humanisme pour la société Guillaume Mudet, c'est-à-dire pour les étudiants, l'université à Toulouse, Folklore et humanisme. Et alors, bon, et ça vous dira mieux que tout ce que je peux vous répondre comme ça tout à trac. Mais tout à trac, je vais vous dire une chose, c'est que j'estime que c'est une chose extrêmement importante. Et que j'ai bataillé toute ma vie pour essayer de l'entretenir et de le promouvoir. Mais j'estime que ça devrait avoir une place beaucoup plus importante partout, où on a à former des jeunes. Parce que, ben, en fond, la tradition, c'est tout ce que nous sommes, c'est tout ce que nous vivons. Même si on tend à l'oublier, même si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et alors, on dit, bon, c'est fichu, bien entendu, les éternelles accusations, passéistes, etc. Ce n'est pas vrai. Le folklore, c'est-à-dire les traditions, l'ensemble des traditions de vie, des manières de vivre de tous les gens, partout où qu'ils soient, cette tradition, c'est toujours constamment adapté, mais elle change toujours en se référant disons, à la continuité séculaire de cette tradition. Et ce qui fait que, actuellement, on le dit, et tout le monde s'en rend compte, les gens sont complètement déboussolés parce qu'on a mis ça au placard, et les gens n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Tout le monde est à la recherche de ses racines. Ils sont à la recherche. Ce qu'on appelle le folklore, c'est pas vrai. Il faudrait trouver un autre mot. Il faudrait de la tradition humaine, c'est tout. De l'humanisme, c'est-à-dire où on s'occupe enfin de l'homme au lieu de s'occuper des machines. Bon, alors ça, voilà pour la première question. Et je vous dis, pour votre gouverne, et pour, d'ailleurs ça rentrera dans vos archives, je vous donnerai, j'en ai qu'un exemplaire, mais je vous ferai une photocopie de cette conférence. Parce que cette conférence, je dirais presque qu'elle a été historique. Moi, j'y avais mis tout mon cœur là-dedans. Hein. Et tiens, François Delgado vous dirait, moi, c'est ce soir-là que j'ai eu la révélation de ce que ça pouvait être.
C'est ce qu'elle m'a dit.
Ah bon, alors, moi, je suis content hein, vous voyez,
Oui, tout
je ne
à fait.
raconte pas de craque.
Tout à fait.
Et elle n'est pas la seule, hein. Elle n'est pas la seule. Moi, j'ai plusieurs personnes qui vont dire, ah, ça, le folklore. Tu comprends? Parce que le folklore, on voit trois pas de danse, un chapeau, des sabots et des trucs. C'est pas que ça. Ça, c'est un côté le plus, disons, le plus visible, le plus spectaculaire. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'est véritablement. Au fond, le folklore, oui, c'est ça. C'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, c'est une manière enfin, ça touche tout les. Ça apporte une réponse à toutes les questions que l'on peut se poser au cours d'une journée et au cours d'une vie. Pour tous les problèmes. Ça commence le matin pour savoir quel temps il va faire. Ça continue par à quelle époque il faut semer les petits pois. Et vous savez, ça vaut toutes les anthologies et toutes les explications les plus actuelles qu'on puisse vous donner là-dessus. Hein. Moi, je suis là-dessus. J'ai trop vécu ça, gosse. J'ai vécu dans ça, trempé là-dedans, dans la tradition. Ben, je voyais chez moi et des voisins, des paysans. Évidemment, et eux, ils sont de là. Ils connaissent tous les vents qui viennent, tout le truc. Quand le ciel change de couleur, quand un truc comme ça. À quelle période de la lune on est, hein? Eh bien, ils vous disent le temps qu'il va faire le lendemain, dans les 2 ou 3 jours qui suivent, mais de façon beaucoup plus précise qu'à la météo. Évidemment, c'est très local. Mais tout ça, parce que ça n'est pas inventé. Ça vient de 1000 ans, de 2000 ans, de ça, des observations qui ont... Des, qui ont, qui ont qui ont été, disons, corroborées par les expériences à chaque génération. Et d'ailleurs, il y a une adaptation. C'est pour ça qu'il faut pas parler de passé. C'est pas vrai. C'est constamment que cette tradition a évolué. Mais en gardant un fond qui est toujours le même, et qui est tellement le même, je vais plus loin, que, à mon avis, c'est peut-être le plus magnifique instrument pour faire se rencontrer les hommes de tous les pays, de toutes les latitudes. Quand vous trouvez quelqu'un, moi ça m'est arrivé, un noir, un indochinois, etc., et que vous parlez, et que moi je parle avec cette conviction, et que vous l'interrogez lui sur son propre également, sur sa tradition à lui, vous disiez, quand vous allez au fond, vous vous retrouvez comme ça. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Les bases, les valeurs solides, je ne parle pas sur les petits détails, mais les valeurs de base sont les mêmes partout sur toute la planète. Et tout bêtement, sans aller jusqu'à des choses très profondes, je vous jure que, ben, je l'ai vu, tu l'as vu certainement dans certains festivals de folklore, etc., on voit que les gens se retrouvent là aussi. Moi, ça m'a valu d'ailleurs de faire des amitiés en Bretagne. Je suis allé en Bretagne à titre de journaliste. Journaliste, les journaux reçoivent périodiquement des invitations du comité de tourisme, tu sais, pour recevoir des journalistes qui, bien entendu, parlent ensuite de ce que le pays peut offrir comme aux touristes. Et moi, je n'étais pas spécialisé pour le tourisme, mais enfin, la dépêche m'y envoie. Bon. Et je me trouve là avec une douzaine d'autres journalistes qui, eux, étaient des spécialistes du tourisme. D'ailleurs, des journaux étrangers, bon. Et alors, on nous donne comme guide un brave homme. Son nom m'échappe maintenant. Mais alors, c'était un cas, lui aussi. Il était, de son métier, il était tailleur. Parce qu'il était boiteux. Autrefois, ça aussi, c'était une tradition. Qui faisait tailleur, qui devenait cordonnier, c'était le boiteux qui ne pouvait pas qui avait des difficultés pour se déplacer. C'était son métier tout désigné. Bon, alors ce brave homme, mais ce brave homme était passionné de culture, il était passionné du passé, de l'histoire et de la tradition bretonne. Et il avait fait une thèse, tiens-toi bien. À l'université, on lui avait donné la possibilité de faire une thèse sur tout le passé moyenâgeux, de la tradition moyenâgeuse de Bretagne. Et ce brave homme, tout en le connaissant, bien entendu, lui, il nous sortait toute sa passion, il essayait de nous la communiquer. Et moi, je m'étais très bien aperçu, sur les 12 personnes qui étaient là, j'étais à peu près le seul à tendre une oreille attentive. Les autres, ça leur passait, ils s'en foutaient, ils regardaient. Et alors, ça m'avait valu ça, après, à la fin du voyage. Tout bêtement, le préfet qui était venu nous voir, il disait, Monsieur Moulion m'a dit que vous aviez été particulièrement intéressé par tout ce qui concerne les traditions bretonnes, etc. Alors, l'année prochaine, vous serez mon invité aux fêtes de Cornouailles. Je suis rassuré. Alors, aux fêtes de Cornouailles, qui sont vraiment là, c'est l'âme de la Bretagne qui explose. Ben là, je m'étais trouvé, il y avait des gens d'Israël, il y avait des gens d'Amérique, il y avait des gens de... Et un Américain, en particulier, ça faisait la troisième année consécutive qu'il venait, et il n'était pas breton. Donc, mais c'était un type qui, certainement, était très attaché à son propre folklore.
Oui.
Tu comprends? Moi, je vois, quand tu vas dans un pays étranger, mais immédiatement, on est comme ça quand il y a un spectacle dit de folklore, traditionnel. Alors, je te répète, c'est là-dessus qu'il est très facile pour les gens de se retrouver. Mais je me souviens, tiens, quand notre ami Lassève a créé sa fête de la Chaussève là-bas, à Saint-Lys, moi, c'était l'année où j'avais fait mon bouquin Catinou à 50 ans. Bon, alors, il m'avait fait une exposition. Il y a une petite bibliothèque municipale. Ils avaient fait une petite exposition avec des panneaux, tu sais, des extraits de nos histoires, et traductions françaises, etc. Et puis, alors, moi, je suis allé un jour pour signer, tu vois, pour faire des dédicaces. Et pendant que j'étais délicat, j'avais de toute évidence, une étudiante noire, qui tournait avec beaucoup d'attention ce truc-là. Et puis elle vient, elle me répit, elle me dit, monsieur, vous allez être étonné ce que je vais vous dire. Et vous savez, vos histoires, là, tout ça, ça me rappelle tout à fait la tradition orale de nos conteurs de mon pays. Et puis, vous ne m'étonnez pas du tout. Alors voilà pour moi ce qu'est le folklore.
D'accord.
C'est un moyen, c'est d'abord, comment dirais-je, une richesse, un patrimoine irremplaçable et que l'on aurait bien tort de laisser disparaître complètement. Parce que les gens en auront de nouveau besoin. Et déjà, ça se sent. Ça se sent. Mmh. Ça vous satisfait?
Et en fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes sensibilisé au folklore.
Ah, mais moi, j'ai été sensibilisé, je vous dis, très très tôt.
Oui.
Très tôt, ce que je vous dis là, je ne m'en étais pas rendu compte quand j'étais gosse, ni même quand j'étais... J'aimais ça, j'aimais parce que j'étais attaché à mon village, à mon pays, le Royaume. Parce que là, j'ai bu ça, si vous voulez, pas avec le lait maternel, mais presque. Et en tous les cas, par la présence de mon père, qui m'a endoctriné, disons, très jeune, à l'amour de notre langue, à l'amour de notre terre, c'était sa religion. Alors, bon, alors j'ai entendu ça de très 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 jeune. Mais, si vous voulez, l'approfondissement de cet attachement m'est venu qu'après, moi, en lisant d'autres choses, et puis en y réfléchissant. Et puis en étant ce jour-là, parce que cette histoire de conférence... Elle est venue, moi j'allais assister à toutes, c'était une époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, les conférences étaient à la mode. Aujourd'hui ça a complètement disparu. Hein.
Oui, c'est vrai.
Pratiquement ça n'existe plus.
C'est-à-dire quelles années cette
dans époque? Les années 50.
D'accord.
Dans les années 50. Il y avait au moins 3 ou 4 associations, les noms ne me reviennent pas maintenant, mais il y avait d'abord les jeunesses littéraires, vous avez la Guillaume Budet, vous avez ensuite, enfin il y avait 3 ou 4 associations qui s'occupaient d'organiser des conférences et qui avaient lieu à la salle du Sénéchal, et moi j'y allais, pas toutes, mais souvent, et dans tous les cas j'étais pratiquement accrédité pour toutes les conférences que faisait la Guillaume Budet et quelques faisaient les jeunesses littéraires de France. Et alors, un beau jour, ben, c'est le professeur Sandrail, tu le connais, qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, qui me dit, vous êtes bien gentil, vous nous faites des comptes rendus, et pas tard, bien entendu, mais pourquoi vous ne feriez pas une conférence et sur ce qui vous plaît, la langue d'or, etc. Ah, alors là, c'était un défi à relever immédiatement, tu comprends? Et ça m'a amené à réfléchir au fond. Il n'y a rien de mieux que ça, tu vois. Un défi que l'on te flanque, on te dit, voilà, le poteau grimpé au bout.
Le reste, c'était inné, là, ça vous a permis...
Voilà, de justifier,
c'est ça,
ouais. D'expliquer pourquoi, et d'approfondir un peu, si tu veux. Parce que j'avais quand même lu pas mal de choses, des études, des trucs comme ça, mais de faire une espèce de synthèse personnelle de ça. Bon. Mm-hmm.
Toujours par rapport à la notion de folklore, j'ai lu un texte de vous. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'humanisme.
Hein, oui.
Et dans ce texte, vous parlez du rôle d'éducation et de culture du folklore.
Ben oui, mais c'est ça, c'est ce que j'en reviens à ça, c'est que précisément, ça devrait faire partie, ça devrait, d'une façon ou d'une autre, c'est pas moi qui vais dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc., mais j'estime qu'on devrait passer ça très tôt aux jeunes.
D'accord.
Leur faire prendre conscience qu'ils sont dans une lignée humaine, qui vient du fond des âges, qui a un patrimoine de sagesse populaire et de savoir. Parce que c'est un savoir. Je m'excuse, mais savoir faire un nœud de chaussure. J'ai été époustouflé il y a quelques mois en prenant la radio à la porte des voitures. Je me suis régalé. Il y avait un type qui expliquait, il y a des polytechniciens, des mathématiciens et sur le plan international. On est en train de faire une étude. Écoute, quel diable, mais espère si je te demande une parole. Il faisait une étude sur l'art de faire les nœuds. Il voulait mettre en équation mathématique comment on fait un nœud. Eh bien, ils étaient sans pas encore arrivés. Je peux vous dire que savoir faire un nœud, c'est quelque chose de très important. Non, alors l'explication, moi, sur le moment, j'ai pas compris, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est des rigolos. Hein. Je comprends bien que Mathieu s'amuse à vouloir mettre en équation le geste qui consiste à faire un nœud. Mais après, a posteriori, je comprends. C'est parce que c'est le seul mouvement que ne peuvent pas faire les robots actuels. Il y a une espèce de... Alors, ils essaient de voir comment le robotiser. Mais ça, c'est là que ça devient effrayant.
Oui.
On va robotiser. Tiens, voilà un beau sujet pour ma chronique de Catino. On va robotiser Oui, alors, pardon, alors là, vous me parliez de...
Du rôle du folklore et alors ce rôle d'éducation.
Ah oui, mais moi je crois d'une façon ou d'une autre, même si on veut uniquement comme un truc optionnel pour les gens que ça risque d'intéresser, mais leur donner des choses solides. D'ailleurs, déjà, rien que ça, leur faire découvrir que ce n'est pas simplement, je dis bien le mot, trois pas de danse et deux chansonnettes. C'est pas... que ça couvre tous les éléments, tous les aspects de l'existence, les rapports sociaux, ça couvre tout. Et que les gens, ils n'en sont pas conscients. Leur faire prendre conscience de l'importance que ça a. Et je crois qu'actuellement, on est en train de retomber en barbarie. Moi, je ne vous oblige pas à partager cette opinion. C'est les barbares sont de retour parce qu'on oublie tout ça, on a tout ça à la poubelle. Et alors, tu as qu'à voir comment on se conduit, comment on se conduit. Alors que ces braves paysans, que autrefois c'était le rustre, c'était le cul bouseux, de tout ce que tu voudras. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que les trois quarts des gens très raffinés en ville pour aller prendre des leçons de pudeur, de discrétion auprès de beaucoup de paysans. Pas tous, bien entendu, il y en a aussi qui sont de gros lourdeaux. Mais des gens aussi fins que je n'en ai connus, moi, dans mon enfance, j'en ai trouvé rarement mieux que ça. Rarement mieux. Et ça, c'est une tradition qui les a fait comme ça. C'est pas venu... C'est pas dans les livres, c'est pas ce qu'ils ont appris d'ailleurs. Vous le verrez, je crois que je le dis. Moi, nos paysans jusqu'à maintenant ont tenu le coup, ont marché, ont fonctionné, c'était pas avec les deux ou trois années qu'ils passaient à l'école laïque, à l'école républicaine ou même dans une école privée. Ils allaient à l'école à partir de 5-6 ans. Hein? Et d'ailleurs, ils ne pouvaient guère y aller avant parce qu'il n'y avait pas de ramassage scolaire. Moi, je vois dans mon village, il y avait des fermes où il y avait 2 kilomètres à faire dans des chemins. Il fallait voir, ils n'étaient pas goudronnés. Dans la boue, des caillasses, etc. Donc, à midi, ils ne pouvaient pas repartir. Donc, tu ne pouvais pas envoyer des bambins comme ça. Bon, ils étaient partis à 6 ans. Généralement, bon, l'automne, ça se passait sans problème, l'hiver sans problème. Mais dès que le printemps arrivait, dès le mois de juin arrivait, les gosses, ça y est, ils repartaient. On avait besoin d'eux pour les travaux, pour y participer aux travaux. Alors, tu vois, le temps... Bon, et puis, ces gamins, à 12 ans, ils avaient le certificat d'études. Ou ils ne l'avaient pas, mais enfin, beaucoup l'avaient. Et je peux te dire une chose, Moi, j'avais mon père, il était instituteur. Hein. Et un jour, il m'avait accompagné quand je passais le bac. J'ai passé l'oral du bac. Et il m'avait accompagné, je ne sais plus sur quoi, l'histoire ou un truc comme ça. Il avait écouté, il avait vu moi, puis des gens qui passaient. Il m'a dit, écoute, je suis époustouflé. J'ai vu des gens, là. Ils n'auraient pas eu le certificat d'études. Et ça, je le crois. Moi, je le vois chez moi. Les gens de ma génération, ils savaient très bien écrire. C'était pas des pattes de mouche. C'était avec des pleins et des déliés. Ils pratiquaient un français très pur, contrairement, parce qu'ils ne connaissaient pas l'argot. Ils avaient appris le français dans les livres qu'on leur donnait à l'école. Et ils ne connaissaient pas l'argot. Il fallait après qu'ils aillent au service militaire pour en apprendre, mais tout le monde est passé par le service militaire. Non, c'est pour vous dire. Alors, et ces gens-là, moi j'en ai encore de ma génération, ils sont capables de vous réciter encore aujourd'hui par cœur des poèmes entiers de Victor Hugo, de machin. Et ils savaient compter. Et il savait faire une lettre sans faire de faute d'orthographe. Avec trois fautes au certificat d'études, vous étiez recalé. Alors, ça vous laisse rêveur. Ouais. Ça vous laisse rêveur sur la manière, sur l'éducation d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est tout. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on reviendrait un peu à donner de l'importance qu'elle mérite. À tout ce savoir populaire, à toute cette sagesse, cette philosophie, c'est même qui est derrière toutes les manières de vivre, de s'exprimer dans les relations, les traditions à respecter. Ben, ça leur ouvrirait des horizons. Autant que tu comprends que ce qu'on est en train de leur ouvrir avec des émissions ou avec les raves parties là. Oui.
Bon. D'accord.
Alors, ce n'est pas trop passéiste ce que je dis là.
Non, mais ce qui compte, c'est votre conception. Hein. Pour vous, la notion de tradition, c'est la même chose que le folklore ?
Ah, ben oui.
D'accord, hein, voilà, c'est ce que j'ai
pu
comprendre.
Oui, moi, tout ça, ça ne fait qu'un tout. Hein. D'accord. Ça ne se découpe pas, enfin, pour moi.
Oui. Et l'art populaire ?
Ben, l'art populaire également.
C'est, voilà, c'est, d'accord.
Tout ça, ça fait partie du même train mm-hmm. même train de savoir, de manière de vivre, etc. La chanson, les danses, c'est un tout.
Oui, oui.
Oui, attends, je peux dire un mot ? J'ai retenu la phrase là de Jean Jaurès, la fidélité à la tradition ne consiste pas à conserver des cendres, mais à entretenir une flamme. J'ai trouvé ça très beau. Jaurès a dit ça.
Oui, oui.
Beaucoup plus.
Mais c'est exactement ça. Entretenir une flamme. Mmh. Oui.
Et non pas conserver des cendres.
Qui éclaire en plus, tu vois, la flamme. Mais il y a la flamme qui te... On peut la voir comme ça, mais une flamme aussi qui t'éclaire, qui éclaire le chemin. Parce que tous ces gens, oui, alors j'en reviens là, tous ces braves types-là, toute cette génération de paysans tels que je les ai connus, moi, aujourd'hui, ils sont bien les paysans, moi, je ne veux pas dire qu'ils sont. Mais ils ne sont pas mieux que leurs parents. Et ils ne vivent pas mieux, contrairement. Ah si, ils vivent mieux, en temps par là, alors là, incontestablement. Hein. Ils ont maintenant la douche dans la maison, ils ont le chauffage central, ils ont des tas de choses comme ça. Alors là, chapeau, hein, parce que moi j'ai connu ça chez moi, on vivait à peu près aussi bien que de la même façon dont on vivait au temps des Gaulois. Hein. Il y avait quatre murs, hein, et un âtre, il n'était pas au milieu avec un trou au plafond, mais il y avait un âtre, et puis c'était fini. Il y avait un puits à côté où on allait tirer la flotte. Pour les water, il y avait le champ de maïs. Les trucs. Alors oui, ça, j'ai connu ça. Et mon Dieu, tout le monde vivait. On vivait comme ça. On n'en était pas époustouflé. Mais alors oui, alors je veux dire que ces gars qui ont vécu donc jusqu'à cette dernière guerre, parce que c'est encore en vous, c'est la guerre qui a fait tout basculer. C'est chaque fois qu'il y a une guerre, vous savez, ça y est, boum, ça apporte. Mais tous ces gens-là, je vous dis, qui ont fait de solides études, parce que c'est solide, c'était pas très volumineux, mais ils savaient lire, compter, écrire sans faire des fautes d'orthographe, et mieux, toute leur vie, ça leur a servi. Mais ce n'est pas les... On ne peut pas le totaliser, mais le temps qu'ils ont passé sur les bancs de l'école primaire, qui leur a permis après de faire leur boulot. S'ils ont pu vivre leur destin, leur truc de paysan et faire ce boulot-là, et même plus que les paysans, tu avais tous les artisans, tout le monde était à la même école, c'est parce qu'il y avait tout ce savoir accumulé, toute cette sagesse, oui, je reviens toujours au mot sagesse, au sens de philosophie, accumulé, qui leur était transmise, mais qui était transmise dès le premier jour où ils ont eu les yeux ouverts et où ils ont pu entendre. Et ça, ça m'était imprégné. Et ça, j'ai peur que les gens, au lieu d'être imprégnés de ça, soient imprégnés de télé, soient imprégnés de trucs avec des choses, des trucs à l'ordinateur. Alors ça va faire des générations tout à fait différentes au point de vue mentalité à tous les. Alors moi, je dis bien et je répète, moi j'ai peur et nous retombons en barbarie. Les barbares sont de retour, c'est-à-dire les incultes. Parce que tiens, pivot. Il a dit un jour, même un article, qu'en ce moment-ci, là, on croyait faire développer la culture par les moyens qu'on a, les multimédia et la télé en particulier. Il dit non, on va vers l'inculture totale, parce que les gens s'imaginent précisément être cultivés, parce qu'ils ont écouté quelque chose, ils n'ont rien compris, ou c'est passé. Et on va vers l'inculture totale, au contraire. Il vaudrait mieux des choses plus... Comment te dire, plus ciblé, plus modeste peut-être, mais solide, plutôt que tout ce truc qui est foutu là comme ça, en pâture aux gens à longueur de journée. Bon, non. Et d'ailleurs, on voit le résultat, je te dis, en ce moment-ci, ça devient très inquiétant. Ça devient très inquiétant. Personnellement, je te répète, moi personnellement, je vois très mal les futures générations. Tu sais, moi, j'aurai 20 ans aujourd'hui, je serai inquiet. Il me semble. Non, vous ne croyez pas.
Si, oui, effectivement, il y a de quoi se faire du souci. Hein.
Parce qu'il y a un système qui s'est installé, mon vieux. Effroyable. Bon, enfin, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes maintenant à notre folklore. Et Dieu merci, heureusement, de temps en temps, on peut s'y retremper.